Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ils seront 11 invités ce soir à débattre sur le plateau de BFM TV et de CNews, 11 candidats officiels pour l'élection présidentielle 2017. De quoi offrir a priori un large panel de programmes et de personnalités aux électeurs, d'autant que les grands partis ont dû se résigner à faire un peu de place à des candidatures plus minoritaires, voire marginales. Et pourtant, une fois de plus, la sélection aura été sévère. Charlotte Marchandise, désignée candidate citoyenne en 2016 par plus de 30 000 votants, n'aura pas réussi à trouver 500 élus pour la parrainer. Un exemple parmi d'autres de ces mouvements, collectifs, réseaux et autres organisations de citoyens n'ayant pas réussi à propulser l'un des leurs pour cette présidentielle. Ils ont pourtant été nombreux en 2016 à se mobiliser en dehors des partis politiques, une nébuleuse plus ou moins structurée où tous ne partagent pas la même vision de la place de l'État, du modèle social ou de la liberté à accorder aux entreprises, mais qui ont tous la même aspiration, renouveler le système démocratique. Alors, après l'échec de leur candidature à la présidentielle, que vont-ils faire? Où sont passées les candidatures citoyennes? C'est la discussion que nous aurons ce soir et justement avec quatre représentants de ces mouvements citoyens dans leur diversité. Avec vous, Benjamin Ball, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de l'équipe de campagne de Charlotte Marchandise que j'évoquais, donc candidate issue de la primaire.org. Vous êtes chargé du pôle convergence de la primaire.org. À vos côtés pour discuter, Anne Radovic, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes co-animatrice de la Maison des citoyens de Lyon et vous êtes par ailleurs coach dans la vie. La Maison des citoyens a été fondée en septembre 2016, entre autres par Alexandre Jardin, qui était lui aussi dans la course au parrainage. Aujourd'hui, il y a 210 antennes en France des Maisons des citoyens.
210 Maisons des citoyens.
Qu'est-ce qui se passe dans ces Maisons des citoyens?
Pour l'instant, elles sont en train de se structurer, de voir comment envisager la suite, puisque le mouvement a émergé très rapidement. Donc voilà, on se retourne et on prend un petit peu de recul.
Alors, à vos côtés également pour discuter, Nicolas Doucerin, bonsoir.
Bonsoir Mélanie.
Vous êtes président de Nous Citoyens et vous êtes aussi dirigeant d'un cabinet de conseil en relations humaines. Alors, Nous Citoyens, ça existe depuis 2013. C'est un mouvement qui se présente comme politique mais non partisan. Et alors, vous aussi, vous deviez organiser une primaire à l'automne avec d'autres mouvements, mais cette primaire finalement n'a pas été organisée. Pourquoi ?
Ah, si, la primaire existait puisqu'on a organisé il y a maintenant un an la primaire des Français suite au changement de la modification, ce qu'on expliquait justement tout à l'heure, les raisons pour lesquelles les citoyens ont eu du mal à émerger pour cette élection présidentielle et notamment mon ami Alexandre Jardin qui a lancé cette initiative, on le voit bien parce que autant on ne veut plus de carriéristes en politique, autant il faut savoir faire de la politique de manière professionnelle parce que le code électoral est ultra complexe. Et on ne rentre pas en politique, mine de rien, comme ça. Ça demande de l'expérience, des moyens financiers, de la puissance médiatique, des réseaux. Et tout ceci, ça ne se fait pas dans un claquement de doigts.
Alors, dernière invitée pour discuter ce soir, c'est Anne Essel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de Nouvelle Donne. Alors, Nouvelle Donne, également créée en 2013. C'est un parti. C'est un parti, d'ailleurs, ou c'est un mouvement citoyen?
C'est un parti politique. C'est un parti politique issu d'un mouvement citoyen, issu d'associations comme Roosevelt 2012... mais qui a voulu, comme le disait notre ami, participer à la vie politique. Et pour participer à la vie politique, même si on critique les institutions politiques actuelles, le seul moyen qui était à notre disposition, c'est d'accepter de créer un parti politique.
Alors, Charlotte Marchandise, je le rappelais, donc, a eu seulement 135 parrainages. Je crois qu'Alexandre Jardin en a eu 165. Mmh. Pierre Larouturou, pour Nouvelle Donne, 33, si je ne... dis pas,
oui,
de bêtises.
Oui.
Est-ce que vous aviez anticipé les uns les autres que ça serait si difficile d'obtenir les fameux 500 parrainages?
Oui,
Benjamin Ball.
On savait que ça était difficile, on savait que ce n'était pas gagné d'avance, et on savait qu'on avait un facteur qui était contre nous, et ce facteur, c'était le temps. On est sorti de la primaire.org le 31 décembre de l'année dernière, donc 2016. Et donc, en 2 mois et 17 jours, récolter 135 parrainages, c'est déjà fabuleux. Et il aurait fallu réussir à en collecter 500. Et pour ça, il nous aurait fallu quelques mois de plus, être mieux préparés pour peut-être une prochaine fois.
Anne Radovic, pour Alexandre Jardin, à quelles difficultés vous vous êtes retrouvée confrontée?
Oui, au même, puisque entre la date d'annonce de la candidature à la présidentielle d'Alexandre, qui était portée par les maisons, qui est du 2 décembre, et le 17 mars, c'est effectivement 3 mois et demi. Donc on est plutôt content d'un score de 165, même si le parti pris, c'était de dire, voilà, on donne tout et on verra. Voilà, on se posera les questions après. Mais même constat, peu de temps, et puis face à des maires qui sont assez démobilisés par rapport à ce processus de parrainage.
Oui, parce que vous parlez du temps, mais on a aussi beaucoup entendu parler de Pierre Larouturou, notamment dénoncé un verrou démocratique. C'était compliqué aussi d'obtenir ces parrainages auprès des maires, Anne Hessel.
Oui, tout à fait. C'était très compliqué. C'était très compliqué. Nous aussi, nous sommes partis très tard. Nous avons voulu jouer les primaires. Il y a eu une primaire à l'intérieur même de Nouvelle-Donne, et c'est Pierre Larouturou qui avait été choisi pour nous représenter. Nous avions beaucoup poussé pour que les candidats de gauche, Mélenchon, se présentent à la primaire, qui devait être une primaire citoyenne du Parti Socialiste. Cette primaire citoyenne à laquelle nous avons essayé aussi de participer s'est révélée ne pas être une primaire citoyenne. Et par conséquent, nous nous sommes décidés à nous présenter, à tenter de nous présenter également très tard, à partir du mois de janvier, avec une grande, grande difficulté pour obtenir des signatures de maires, soit qui ne souhaitaient pas s'engager, qui ne souhaitaient pas signer. Il y a 36 000 maires de petites communes et beaucoup d'entre eux refusent tout simplement de donner leur parrainage à qui que ce soit.
Alors comment est-ce que vous expliquez les uns les autres qu'aujourd'hui, parmi les 11 candidats qui ont réussi à valider leur candidature par le Conseil constitutionnel, existent ce qu'on appelle un peu abusivement des petits candidats, mais en tout cas des gens comme Jacques Cheminade, par exemple, qui ont réussi, eux, à obtenir 500 signatures et pas vous, Nicolas Doucerin?
Alors, je pense qu'il y a deux raisons. D'abord, pour répondre à la question du parrainage, il faut comprendre pourquoi les maires des petites communes, on pourrait dire, pour certains d'entre eux, manquent un peu de courage. C'est pour une raison très simple, c'est que vous êtes dépendant de la communauté de communes, vous êtes dépendant du département et vous êtes dépendant des finances de la région. Et à partir du moment où, je rappelle qu'en donnant votre parrainage, tout ceci est aujourd'hui publié, c'est le changement de la fameuse loi et la raison pour laquelle on avait créé la primaire des Français, vous êtes affiché, donc le maire est donc exposé, et en étant exposé, il prend le risque d'avoir de moindres subventions de la part de la communauté de communes, département, région. Ça, c'est le premier élément de réponse. Oui, le deuxième élément que l'on évoquait concernant les candidats, bon bah si on prend Jacques Cheminade, il est à sa troisième tentative. Encore une fois, on a besoin d'expérience, on a besoin de temps, on a besoin d'argent, et on ne se lance pas, il faut être très objectif, on ne se lance pas à la course dans une présidentielle comme ça, dans un claquement de doigts, 6 mois avant, en disant « je vais révolutionner ». Il faut proposer une vision, il faut bâtir un projet, il faut réunir des moyens financiers, il faut avoir la puissance médiatique, il faut avoir les relais sur le terrain pour aller porter la bonne parole, et tout ceci, ben, même avec la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui, on se voit que c'est pas si simple que ça.
Alors pourquoi avoir choisi le scrutin présidentiel pour émerger? Est-ce que finalement c'était la bonne élection, le bon scrutin?
Non, mais c'est pour ça que nos citoyens ne l'ont pas choisi.
Alors je pose la question à Benjamin Boll qui...
C'était le bon scrutin parce qu'il s'agissait de tracer une voie citoyenne. Et pour tracer une voie citoyenne, il faut un commencement, un déclic, quelque chose qui est assez facile. Il nous fallait un processus de haute qualité démocratique qui nous permette de partir des simples inscrits de la primaire.org pour arriver à une candidature qui soit choisie par 32 000 personnes. Et ces 32 000 personnes, il a fallu ensuite les mettre en mouvement. Et pour les mettre en mouvement, il a fallu leur proposer d'être volontaires, de donner des fonds, de s'investir et de commencer à travailler sur la question programmatique qui avait déjà été un petit peu élaborée en amont, et notamment cette question programmatique qui avait été élaborée avec pas mal d'ensemble de la société civile. Donc pourquoi partir à cette élection présidentielle? Parce que ça offre une facilité d'expression, le fait d'avoir une candidature, une personne, une focalisation. Donc en fait, on joue le jeu de la société du spectacle pour pouvoir le détourner. C'est une forme de hacking, en fait. L'objectif, c'est de pirater le système. On joue ce jeu-là. Et de cette manière-là, on a créé une accumulation de force. Et cette accumulation de force permet de construire toute la suite et va permettre notamment de construire ce qu'on espère, c'est-à-dire un raz-de-marée citoyen en 2020, où les gens vont pouvoir reprendre le pouvoir du local de manière totalement disruptive et totalement inattendue, peut-être même y compris pris pour nous-mêmes. Et le fait qu'il y ait eu cette candidature de Charlotte, mais qu'il y ait eu aussi la candidature d'Alex, et qu'il y ait eu d'autres candidatures comme celle-ci, eh bien, des gens se disent, c'est possible pour moi. Chacune et chacun se dit, moi aussi, je peux le faire, nous aussi, nous pouvons le faire, et ça va changer pas mal, en fait, parce qu'on change de posture par rapport aux politiques.
Anne Radovic, je vous voyais hocher la tête pour vous aussi, du côté de la Maison des citoyens. Il s'agit de créer un raz-de-marée, de créer un futur coup d'État citoyen, comme on a pu
oui,
le dire.
Enfin, c'était par rapport aux propos de Benjamin. Effectivement, le fait de devenir acteur aussi, c'est-à-dire qu'on a, nous, dans les maisons, on a passé des coups de téléphone, on a appelé des maires. Au départ, Alexandre avait plus de 460 promesses. Donc, la surprise, ça a été plutôt l'écart entre les promesses et les signatures effective, mais au-delà de ça, ce qui a été important pour nous, c'était le fait de participer. C'est-à-dire que moi, si on m'avait dit il y a 6 mois que j'allais passer des coups de fil dans des territoires pour appeler des maires ruraux et écouter leur détresse, j'y aurais pas cru en fait. Et ça, ça me rend beaucoup plus optimiste pour la suite aussi. Si on a pu faire ça,
Qu'est-ce qui vous avait décidé à vous engager auprès de ce mouvement, la Maison des citoyens?
Au départ, moi, c'est le... Alors, on a chacun... je pense que d'autres personnes des maisons diraient d'autres choses. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la diversité. Pour moi, c'était ce que j'ai lu dans le manifeste. Alors, je suivais Bleu, Blanc, Zèbre depuis un moment, mais c'était les mots posés dans le manifeste par Alexandre, la notion que la puissance vient d'en bas, le pouvoir vient d'en haut. Et puis, cette notion de faiseux, surtout. C'est-à-dire qu'on part de l'action, on parle des choses qui marchent. Moi, j'ai retrouvé un petit peu de concepts qui sont assez communs, d'ailleurs, à nos métiers. Je crois que Nicolas partage aussi cette perspective. C'est-à-dire qu'on part des compétences et de ce qui fonctionne plutôt que de se focaliser sur... plutôt que de se plaindre de choses qui vont nous déprimer.
Alors c'est vrai que ces dernières années, les mouvements ont été plutôt nombreux, très divers aussi, hein, d'émergences qui toutes se disent citoyennes. Est-ce que pour vous, c'est le signe de quelque chose qui est en train de bouger plus large, peut-être aussi d'un essoufflement de notre système politique, Anne Hessel ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Le système politique qui est complètement professionnel à l'heure actuelle, qui fait que chaque 5 ans, les Français sortent les sortants, pour finalement mettre en place les mêmes personnes qui feront les mêmes politiques, est un système que nous ne pouvons plus supporter. À Nouvelle-Donne, nous avions élaboré un projet politique dont l'élaboration a été complètement citoyenne, faite par des comités de citoyens, pas nécessairement experts, et qui se sont penchés sur tous les aspects de la vie politique, de la vie sociale, de la vie démocratique. Et c'est ce programme que nous voulions, ce projet que nous voulions apporter dans le débat politique. Avec quand même l'idée que les présidentielles, vous demandiez si c'était la bonne élection. Oui, c'est la bonne élection pour se faire entendre, pour tenter de se faire entendre. Le succès n'a pas été énorme. Et en ce sens, on vous remercie beaucoup de nous inviter justement avant ces grands débats dont on sait bien qu'il ne sortira rien de programmatique, que des postures. Ils sont 11, ils auront 17 minutes chacun, c'est très peu. Et voilà. Mais dans ce débat présidentiel, on peut espérer être suffisamment entendu en tant que citoyen, en tant que mouvement, en tant que rassemblement de rassemblement. Et c'est ce sur quoi nous nous penchons actuellement à Nouvelle-Donne. Et afin de pouvoir éventuellement, pour nous c'est très important, partir aux législatives avec quand même une visibilité, un petit début de visibilité et donc une chance de pouvoir faire avancer nos idées.
Alors c'est quoi au fond un candidat citoyen, Nicolas Doucerin? Est-ce que être citoyen dans un mouvement citoyen, c'est avant tout en fait ne pas être dans un parti politique? Comment est-ce que vous définissez l'idée du candidat citoyen ou du mouvement citoyen?
C'est une très bonne question. Juste avant d'y répondre, je vais pas faire une réponse de politique, mais je voulais vous dire qu'on n'est pas dans l'essoufflement politique, mais on est dans un renouveau. Voilà, je pense que c'est une terminologie importante qu'il fallait signaler, et je pense que c'est pas Alexandre Jardin qui me contredira de ce point de vue-là, parce qu'on connaît son optimisme et sa détermination. On est dans un renouveau. On est en train d'écrire une nouvelle page dans la manière d'exercer et de faire de la politique. Et un élément qui est très important, c'est que Le terme citoyen, moi je le dis depuis 4 ans, et le plus possible, et encore une fois on vous remercie de nous inviter, de pouvoir proposer ce débat, c'est que on a gagné sur 3 tableaux aujourd'hui. D'abord, c'est l'émergence des mouvements citoyens. Voilà, nous citoyens entre autres, d'autres mouvements ont suivi. Tout ça, c'est un seul et même groupe. Hein. C'est-à-dire que toutes ces initiatives citoyennes sur le terrain, on est ce qu'on appelle les résistants des temps modernes. Voilà, nous sommes des résistants, on a pour vocation de sortir notre pays de la crise, de participer à ce projet de transformation. Deuxièmement, on est en train quand même de gagner la bataille des idées. La première des batailles, on est en train de la gagner. On est en train de traiter, malgré tout, dans le débat, même si ça reste que des promesses, regardez les propositions qui sont faites par les principaux candidats aujourd'hui. Regardez ce qui était fait en 2012. On parlait de la réforme du bac, du permis de conduire et la finance qui était un ennemi. Ça s'arrêtait là, le débat. Il était d'une pauvreté complètement dingue. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, citoyens, s'est créé. Puis troisièmement, on a mis le citoyen au cœur du débat. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'un candidat citoyen ? Chez nous, citoyens, on n'est pas là à donner la leçon en disant « Écoutez, nous détenons la vérité et tous nos élus sont des pourris et il faut tous les renverser. » D'abord, c'est un mensonge, c'est se leurrer. Faire de la politique, c'est compliqué. C'est un temps, un investissement colossal du lundi au dimanche. C'est des sacrifices énormes et je souhaiterais remercier nos milliers d'élus aujourd'hui qui sont des hommes et des femmes politiques sur le terrain, qui donnent de leur temps. Savez-vous que le maire d'une petite commune de 1500 habitants est indemnisé à hauteur de 1100 euros ? C'est même pas le SMIC, et qui consacre du lundi au dimanche, qui donne son temps, son énergie, qui va traiter des poubelles qui brûlent, en traitant les problèmes de circulation, de sécurité, enfin, c'est un job colossal. Et ça, ce sont des citoyens. Donc, notre objectif à nous tous, ça n'est pas de balayer tous nos politiques, où on est parfois pollué par quelques hommes politiques carriéristes qui sont ultra médiatisés et qui donnent une image globale, mais ça n'est pas l'image de tous nos élus. Notre objectif, c'est de transformer la vie politique et de réconcilier le citoyen avec la manière de faire de la politique.
Alors, je voudrais faire quand même réagir les autres sur cet optimisme que vous développez, Nicolas Doucerin. Est-ce que vous partagez l'idée aussi que les citoyens se sont retrouvés dans cette campagne, enfin au cœur de la campagne, Benjamin Boll ? Vous avez aussi cette impression ?
Bon, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est un phénomène européen, ou voire même planétaire. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui a des limites. Ces limites amènent le système à un effondrement, et pour pouvoir résister à un effondrement, il y a quelque chose qui s'appelle la résilience. Et nos mouvements, par des biais différents, tentent cette résilience en faisant en sorte que, au lieu de prendre, de dire « lui, c'est le problème », eh bien, on s'est dit, nous, on est la solution. Et donc, nous, on est la solution. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on co-construit les choses ? Et alors, ce qui est vraiment important, c'est dans la question qui était posée, qu'est-ce qu'un mouvement citoyen ? C'est assez compliqué à y répondre. Moi, j'essaye d'y répondre en regardant nos amis espagnols. Nos amis espagnols ont balayé au municipal l'essentiel des forces politiques, et il y a 30% des conseillers municipaux aujourd'hui qui sont issus du mouvement des indignés. Et c'est absolument pas ce qu'on a appelé le phénomène Podemos qui est la cause de ça. C'est des plateformes municipalistes locales où les gens ont co-construit le programme, ont décidé ensemble de la méthode pour pouvoir désigner disons leur candidate ou leur candidat, et le plus possible d'ailleurs deux candidates, et ça c'est vraiment important. Et à partir de ce moment-là, comme il y avait une co-construction et du programme et une méthode et un processus pour pouvoir désigner des candidatures, et en plus qui s'était doté d'indicateurs et de systèmes de suivi et de liens avec la société civile pour, une fois qu'il serait élu, regarder comment faire, eh bien à partir de ce moment-là, on peut parler, à mon avis, de candidature citoyenne. Il y a beaucoup de candidatures citoyennes ou dites citoyennes ou de mouvements dits citoyens qui, en fait, sont que des néo-partis politiques, et ces néo-partis politiques ne se dotent ni de processus de co-construction, ou alors ils le font simplement comme toilettage, comme citoyenno-washing, ni de processus de désignation novateur. Si on prend deux éléments, comme par exemple Ma Voix sur la question des législatives ou la primaire.org, eh bien ce sont des systèmes qui sont dotés de processus, absolument pas de co-construction programmatique. Là où il y a eu une co-construction programmatique dans le cas de la primaire.org, c'est que les candidates et les candidats étaient invités à contacter écouter les personnes qui les soutenaient pour construire avec elles le programme. Donc je crois réellement qu'il faut deux éléments, deux méthodes pour y arriver, parce que sinon on est clairement dans du néo-parti politique, c'est-à-dire on copie-colle ce qui existe déjà, juste on a moins d'argent, moins de notoriété, moins de personnalité.
Anne Radovic, comment est-ce qu'on fait pour faire de la politique autrement sans reprendre la grammaire traditionnelle des partis politiques, des militants politiques?
La première chose, c'est déjà d'être au clair avec soi-même. C'est-à-dire qu'on part du jeu et c'est ces jeux mis ensemble avec leur diversité qui vont éventuellement créer un nous, ce qui est assez complexe, hein, puisqu'on n'est pas forcément tous d'accord sur tous les points. Peut-être que, en tout cas d'être quatre ici venant de mouvements différents, moi je trouve ça personnellement très enrichissant parce qu'on voit quelles sont les convergences et pour ça, je trouve qu'il faut du temps, tisser des liens, faire de la politique autrement, c'est aussi remettre le lien qui est quand même la base du tissu social et de notre société. Pour moi, c'est cette question de lien et ça se fait en partageant. Ce qui me vient, c'est vraiment cette notion d'authenticité, de simple. C'est-à-dire qu'on va sortir du discours et on va regarder encore une fois les projets, ce qui fonctionne et partir de la réalité.
Alors vous n'êtes pourtant pas les seuls à vous réclamer de faire de la politique autrement, d'être plus proche des citoyens, plus proche du peuple. Je voudrais vous faire écouter l'un des candidats qui participera au débat de ce soir. Il s'agit de Jean Lassalle, lui il est candidat pour le mouvement Résistons.
Je pense que je suis celui qui aujourd'hui connaît le mieux notre pays. De par mon expérience, de par mon âge, de par la longévité de mes mandats, je suis le seul à avoir créé ma propre entreprise. Et à l'avoir tenu, à l'avoir vécu pendant des années durant, je crois que j'étais à la rencontre des Français. Je les connais. Je connais aussi les moindres replis, je pense, de notre pays. Je dois rétablir la France. Et c'est un énorme travail. Ce travail ne peut se faire qu'avec les Français. Le peuple de France, le grand oublié de ces 30 dernières années, dont je me mets en mouvement pour élaborer avec eux un nouveau projet pour la France, dont les contours et le fonctionnement restent bien sûr à définir, mais j'ai beaucoup, beaucoup de foi dans le génie français et dans sa capacité à rebondir quand il en a vraiment besoin. C'est le French flair. Je crois que lorsque l'électeur a confiance, il vous garde. Et moi, au moins, j'ai ceci, c'est que pour l'instant, je n'ai pas perdu une seule élection sur laquelle j'étais engagé sur mon nom.
Alors comment est-ce qu'on fait la différence, Anne Hessel, quand la plupart des candidats, après tout, se réclament d'être proche du peuple, proche des Français, d'avoir été à l'écoute des attentes des territoires ruraux, etc.
Bien sûr qu'ils se réclament de ça. Mais ils sont peu nombreux à lutter contre la Ve République. Or, la Ve République, elle est verrouillante. Elle empêche justement l'expression des citoyens, elle empêche les référendums citoyens, elle empêche que les propositions de loi soient faites par les citoyens. Deux candidats dans les candidats importants, dans les candidats qui ont de l'audience, beaucoup d'audience, prêchent pour une réforme de la République, des institutions et l'émergence d'une sixième République démocratique. Sixième République dans laquelle le rôle monarchique du président de la République, élu au suffrage universel, serait nettement diminué et qui serait une République parlementaire, une République qui donnerait la parole et une République dans laquelle les élus reviendraient vers leurs électeurs et pourraient être éventuellement démis de leurs fonctions s'ils n'accomplissaient pas les promesses qu'ils auraient faites. Ces deux candidats doivent se réunir. Là, ils sont perdants tous les deux. Et à l'heure actuelle, il existe un grand rassemblement de rassemblements qui s'intitule « Une victoire, pas deux défaites » et qui est un rassemblement de rassemblements citoyens dans lequel Nouvelle Donne fait partie. Et qui réclame une convergence à Mont-Mélenchon, une seule candidature entre les deux, et la constitution rapide d'une assemblée constituante qui changerait la donne démocratique et qui permettrait l'émergence réelle de mouvements citoyens.
Alors, en parlant de convergence, est-ce qu'aujourd'hui, entre les différents mouvements que vous représentez, et évidemment, vous êtes quatre ce soir, et il y en a beaucoup d'autres, hein, donc la primaire.org, Nous Citoyens, Nouvelle Donne, La Maison des Citoyens, est-ce que vous travaillez aujourd'hui à la convergence de tous vos mouvements, Benjamin Boll ? Est-ce que c'est ça la priorité ?
Oui, la priorité, c'est la convergence, mais pas forcément des corps intermédiaires, des nouveaux corps intermédiaires que sont nos mouvements. C'est la convergence des aspirations, la convergence des personnes qui vont faire mouvement. Donc comment est-ce qu'on fait cette convergence ? Eh bien, il faut se doter de critères. Il y a ceux qui disent que le seul critère, c'est le processus. C'est par exemple le cas de la Belle Démocratie ou de Ma Voix. Il y a une charte de valeurs minimale, très minimale ou hyper minimale, et un processus qui est déroulé, et peuvent participer à la convergence ceux qui respecteraient ce processus. Il y a d'autres possibilités, c'est de se dire, eh bien, en plus de processus communs, on va se doter d'une série d'autres communs, de valeurs, pour pouvoir se mettre d'accord. Je vais en citer quelques-uns. Premier commun sur lequel on pourrait être d'accord, y compris toutes et tous autour de cette table. Le respect intégral de la charte anticorps, y compris pour soi-même. C'est-à-dire non-cumul des mandats, non-cumul des mandats dans le temps, de l'éthique en politique, de la transparence, etc.
Je vais le demander en direct peut-être. Nicolas Doucerin, Anne Radovic, Anne Essel, vous êtes d'accord avec ce type de socle minimum commun pour d'éventuels rassemblements ?
Oui, non, mais je crois que tout ce qui est non-cumul des mandats, ça a été repris d'ailleurs dans notre programme dès le début. Ça a été le socle politique du non-cumul des mandats. La transparence en matière de rémunération, le problème n'est pas un tant soit peu ce qu'un député, un sénateur peut gagner. Le problème, c'est qu'on veut que ce soit justifié. Quand on a une enveloppe parlementaire que l'on dépense, on veut que ce soit contrôlé par un expert comptable, on veut que ce soit mis sur Internet en temps réel, comme le font un certain nombre de pays. On veut de la transparence, on veut de l'exemplarité. Encore une fois, si on veut réconcilier le citoyen avec nos élus, il faut que nos élus soient le plus exemplaire possible, et en tout cas le transparent, parce qu'il s'agit de l'argent public. On ne peut plus continuer comme on fait maintenant depuis 30 ans, 35 ans, dans des abus qu'il faut dénoncer. Je parlais tout à l'heure des maires des petites communes. Pourquoi est-ce qu'on a créé les communautés de communes et départements ? Parce que nos élus sont tellement mal indemnisés sur le terrain. D'abord, vous n'attirez que des retraités. Je suis désolé. Or, si on veut des élus qui soient représentatifs de la société française, on doit permettre à un jeune de 25 ans, de 30 ans, de pouvoir exercer le mandat de maire. Mais encore faut-il l'indemniser correctement, hein, et c'est sûr qu'avec le peu d'indemnité, ben, on ne l'a pas. Donc on le voit, donc on a créé des communautés de communes, donc vous obtenez un poste de vice-président qui est mieux rémunéré que l'indemnité que perçoit le maire de la petite commune, on cumule l'ensemble, et donc on crée un espèce de système ultra complexe, opaque, non transparent, qui fait qu'aujourd'hui, on jette le doute parmi tous nos concitoyens et on se retrouve dans les difficultés auxquelles on est tous confrontés.
Alors Benjamin Boll, je vous ai coupé. Quels sont les autres points de convergence
Deuxième
entre les différents mouvements citoyens ?
Deuxième point de convergence, il y a un certain nombre de grands textes qui ont été lancés, qui sont des textes à haute valeur morale, qui sont largement signés. Je parlerai de trois textes. Le Chant des Colibris, l'appel de Nicolas Hulot qui s'appelle Osons, qui était pendant la COP21, et l'appel d'Edgar Morin, Changeons de voie, changeons de vie. Donc ça, c'est des bases de valeurs. Elles ne donnent pas de grandes orientations à la vie politique, mais le fait de s'y référer, on se dit voilà notre commun. Il n'y a pas d'appel à la haine dedans, il n'y a pas d'appel à la violence. Donc déjà, on a des limites. On peut converger, mais il faut se doter d'une éthique, de limites, de valeurs. Et ensuite, on peut y ajouter quelque chose de supplémentaire. 50 têtes de réseau, dont des gens de la FNH, des Colibris, de chez Edgar Morin, des Jours Heureux, etc., ont lancé un texte qui s'appelle « Osons les Jours Heureux » avec 25 mesures qui ont été faites à Villarceau. Et ces 25 mesures, elles pourraient être bonifiées et augmentées. On a d'ailleurs un nouveau séminaire qu'on va ouvrir pour le faire, dans un esprit de Conseil National de la Résistance. Et donc, clairement, on peut faire en sorte que ça puisse exister. Et si on se réfère à une éthique, à des valeurs, à une programmatique commune, mais en termes de projet de société, en lui permettant d'être bonifié, et qu'en plus on se dote de processus, alors là nous avons une matrice pour renouveler totalement la vie politique dans ce pays. Et je pense que ça, c'est en marche et ça ne s'arrêtera pas.
Mais est-ce que c'est pas plus facile de se retrouver sur des questions de processus, hein, donc de transparence, d'éthique, d'horizontalité peut-être, contre lesquelles il est difficile d'être contre, mais est-ce que vous n'allez pas achoper à un moment sur la question des idées, du projet de société? Évidemment, vous ne vous situez pas sur une échelle droite-gauche, mais vous n'avez pas tous, quand on regarde en détail, les mêmes visions de la place de l'État, de la liberté qu'il faut accorder aux entreprises, etc. Donc à quel moment il va y avoir des convergences peut-être impossibles, en tout cas sur les idées, sur la vision de société. Anne Radovic.
Oui, alors je suis d'accord sur l'importance du processus, de la méthode. Travailler ensemble, ça demande une certaine discipline. Et moi, j'ai envie de dire qu'il y a aussi une discipline personnelle à avoir. Donc je pense que là, il y a un gros travail de pédagogie à faire pour qu'on puisse être, j'ai envie de reprendre les termes de Patrick Vivray, de faire des accords féconds, d'avoir des désaccords féconds. Ça demande énormément de pratique, à mon avis, un enjeu culturel, voilà, pédagogique. Je le vois pas arriver du jour au lendemain, là, quel que soit le, enfin, même si on a des méthodes en place aujourd'hui.
Anne-Essel?
Oui, moi je crois qu'il y a à la fois effectivement besoin de temps. Besoin de s'écouter, besoin d'apprendre à s'écouter, besoin d'apprendre à reconnaître les divergences importantes et celles qui ne le sont pas, et arriver effectivement à une convergence la plus grande possible sur tous les sujets de société. Mais, je dirais, parce qu'il y a quand même un mais, moi j'ai l'impression que politiquement nous vivons quand même une période extrêmement dangereuse et qu'il y a une urgence à modifier la manière dont s'exerce le pouvoir. Il y a une véritable urgence. Nous sommes quand même au bord d'une crise, enfin au bord, même avec déjà un pas au-delà du gouffre, d'une crise climatique grave, gravissime, pour laquelle il est absolument urgent d'apporter des réponses, et pas seulement des réponses nationales, des réponses internationales. Nous sommes au bord d'une crise démocratique, la preuve, nous sommes tous là, en ayant l'impression qu'il est urgent d'avoir d'autres manières de concevoir la vie politique. Nous sommes au bord d'une crise sociale, le chômage est une catastrophe galopante, une catastrophe qui s'accroît de jour en jour. La misère est palpable en France maintenant, elle est palpable dans la rue, on se promène et on la voit, on ne peut plus la critiquer. Il n'y a pas que les maires qui gagnent 1100 euros par mois à faire vivre une petite commune, il y a tous ceux qui ne gagnent plus rien. Il y a des réponses urgentes à apporter. Alors, vous me direz, c'est contradictoire de demander à la fois beaucoup de temps pour laisser au mouvement citoyen la possibilité de s'élaborer en respectant bien sûr la charte anticorps, mais aussi d'autres manières d'être ensemble et de ne pas se faire la guerre et d'essayer de s'écouter et d'essayer de converger vers des positions communes. Mais en même temps, il y a une urgence. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons en tant que nouvelle donne, très fort, à une convergence à Mont-Mélenchon, c'est-à-dire à ce qu'il y ait des propositions de réformes démocratiques qui atteignent le débat présidentiel. Parce que pour le moment, les autres candidats du débat présidentiel n'ont pas le sentiment qu'il y a une urgence démocratique. Ils sont finalement très... Ils postulent pour être président de la République, de la Ve République.
Nicolas Doucerin, pour vous, pour nous citoyens, la priorité, c'est que les différents mouvements citoyens, dans leur diversité, arrivent à trouver un socle commun, ou bien que les idées que vous avez portées puissent être reprises par un des candidats, un des 11 candidats, un de ceux qui a franchi la barre des 500 parrainages. C'est quoi la priorité ?
La priorité, on le voit bien, on est en train de mener un projet de transformation extrêmement important et tous les sujets sont très importants. L'écologie, la culture, le sport, la jeunesse, etc. Il y a un sujet qui est essentiel aujourd'hui, c'est l'emploi, l'économie. Demain, vous réduisez les 10 millions de pauvres que nous avons en France, d'accord ? Les 6 millions de chômeurs, vous divisez ce chiffre par 3, vous n'avez plus de Front National, je suis désolé, vous aurez beaucoup moins de M. Mélenchon, vous aurez à nouveau une cellule familiale, vous aurez à nouveau du partage, vous aurez à nouveau du pouvoir d'achat, vous aurez à nouveau de la richesse et vous pourrez à nouveau faire du social. On ne peut pas faire du social avec de l'argent que l'on n'a pas. Pour ça, il faut recréer de la richesse. Il faut remettre tout notre pays dans une dynamique.
La croissance est un mythe. Il n'y aura pas de redistribution de richesse sur ce genre de programmatique.
Mais c'est pas une histoire de croissance. C'est une histoire que, par exemple, un pays aujourd'hui comme l'Allemagne a réussi à réduire son taux de chômage à moins de 4%. C'est une réalité parce qu'ils se sont réformés.
Avec des millions de travailleurs pauvres supplémentaires.
Alors, ça, c'est. Voilà un vrai débat. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 10 millions de Français, effectivement, assistés et avec un certain nombre de mesures sociales, ou est-ce qu'il vaut mieux vivre de son travail? Ben, chez nous, citoyens, on pense qu'il vaut mieux vivre de son travail. Parce que c'est une question de fierté, c'est une question d'estime de soi, c'est une question, finalement, de reconnaissance dans la cellule familiale. Et pour avoir organisé 120 apéros citoyens, pour avoir voyager depuis 4 ans dans toutes les régions, même plus que Jean Lassalle, j'ose le dire, j'ai beaucoup de respect pour son action. Je peux vous garantir, pour avoir été dans les quartiers très difficiles, ce qu'attendent les gens, c'est de pouvoir se reconnaître, d'avoir une vie, d'avoir un projet, de raconter quelque chose dans la cellule familiale. C'est ça qui est important.
On l'entend, même si les buts peuvent être les mêmes, c'est-à-dire réduire le chômage, réduire la misère, les moyens, évidemment, il y a du débat. Benjamin Boll, laprimaire.org, entend créer un projet d'archipel citoyen. L'objectif à terme, c'est quoi? C'est d'investir les législatives, c'est ça le prochain objectif. Comment vous allez présenter, regrouper des candidats dans 577 circonscriptions? Sur quel socle minimum commun de valeurs, d'idées?
Alors déjà, c'est pas laprimaire.org. Laprimaire.org présente un dispositif de la même manière que pour les présidentielles, qui est omnipartisan, où chacune et chacun peut se présenter. L'archipel citoyen, c'est une initiative de Charlotte Marchandise, mais qui est aussi coportée par Isabelle Attard et Nathalie Perrin-Gilbert. L'objectif est simple, c'est sur la base des minima que j'ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire Anticor, Edgar Morin, l'appel Changeons de voix, changeons de vie, et le pacte Osons les jours heureux, eh bien, nous contactons non plus les mouvements politiques, mais les candidates et les candidats eux-mêmes, en disant, quel que soit votre mouvement, est-ce que vous êtes d'accord pour signer ces bases-là? Si on se retrouve avec plusieurs personnes dans la même circonscription qui signent les mêmes bases et qui sont de mouvements différents, alors on dit aux gens localement, ok, mettez-vous d'accord, comment est-ce qu'on peut tomber d'accord? Et on va essayer d'y arriver avec des éléments de processus, ça demande du temps, mais on peut peut-être y arriver. Et puis là où on n'aura pas ce problème, là où il y a des gens qui disent, moi j'accepte de participer à cette histoire d'archipel citoyen qui dépasse mon simple mouvement politique et de raconter une histoire avec d'autres personnes, d'autres citoyennes et d'autres citoyens, candidates et candidats de mouvements différents et même de gens totalement inconnus, voire de gens qui sortent de laprimaire.org, pourquoi pas, eh bien, toutes ces personnes-là, eh bien, si on arrive à avoir un certain nombre de circonscriptions où il n'y en a qu'une, eh bien, ça peut continuer à ouvrir une voie vers ce raz-de-marée citoyen en 2020.
Et clairement, donc vous serez prêt à accepter, pardon, que tout ce n'est pas la même vision de la croissance, par exemple?
Bah, s'il signe l'appel d'Edgar Morin, qui est lui-même post-croissantiste, je veux dire, c'est une base scientifique, hein, c'est pas un débat politique, en fait, c'est une base scientifique, eh bien, à partir de ce moment-là, il y a pas de problème. En plus, il est post-croissantiste de manière assez soft, c'est-à-dire tranquille, il ne prône pas la question de la décroissance, il dit simplement que le débat économique est dépassé. Et à partir de ce moment-là, bah, si on est d'accord sur cette base-là, on peut continuer à avancer. Pour pouvoir inclure et converger, il y a une nécessité de se fixer des limites. On peut pas dire on va mettre absolument tout le monde autour de la table et tout le monde va être capable de créer un projet commun. Ça, je n'y crois pas. On risquerait de se retrouver dans la situation du mouvement 5 étoiles en Italie où des gens, ils avaient un processus magnifique, ils ont mis tout le monde autour de la table, mais les communs n'étaient pas suffisamment grands pour éviter qu'il y ait une partie du mouvement qui soit pour l'accueil des migrants et l'autre partie qui soit quasiment néo-nazi.
Anne Radovic, législative, c'est aussi le prochain horizon pour la Maison des Citoyens?
Pas pour la Maison des Citoyens en tant que mouvement. Après, dans les maisons, vu qu'au départ c'est un mouvement apolitique, il y a toutes sortes de personnes, dont des personnes qui appartiennent à plusieurs plateformes et qui peut-être, eux, auront des démarches pour rejoindre des plateformes telles que les vôtres, je ne sais pas. Mais Alexandre est très clair sur le fait qu'on n'est pas encore... Alexandre Jardin n'est pas encore... considère que le mouvement n'est pas encore suffisamment structuré pour se présenter en tant que mouvement aux législatives. Donc on vise plutôt continuer les actions localement et se concentrer sur les municipales.
Anne Essel, le prochain horizon pour vous à Nouvelle-Donne?
Clairement les législatives. que nous préparons tranquillement mais avec énergie. Avec énergie pour pouvoir présenter suffisamment de candidats pour essayer d'avoir un financement pérenne de Nouvelle Donne et pouvoir continuer à porter notre projet sur la place publique.
Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Merci Benjamin Ball, merci Anne Radovic, Nicolas Doucerin et Anne Essel. La réécoute, le podcast, les commentaires, c'est sur franceculture.fr, sur la page du Grain à Moudre. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre fil Twitter du Grain à Moudre, une émission préparée par Cyril Baer, Antoine Tricot, Fanny Richer, Céline Leclerc et Louise Fuseau. Réalisation Jean-Christophe Francis. Prise de son ce soir, YouTube Diego à Claude. On se retrouve demain avec cette question: évasion fiscale, suffit-il de dénoncer pour empêcher ?